Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel, nous sommes dans le studio de Chartres avec notre invité de ce jour, Patrice Calvel, architecte en chef des monuments historiques qui mène avec brio les restaurations dans la cathédrale de Chartres qui vont à la fin nous faire découvrir une cathédrale vraiment gothique. Bonjour cher Patrice Calvel.
Bonjour cher
Nous allons parler aujourd'hui dans notre émission des découvertes et restaurations dans la cathédrale, car effectivement on a fait des découvertes extraordinaires.
Effectivement. Alors en fait, nous sommes en train de poursuivre ce que nous avons commencé dans le haut cœur, c'est-à-dire le dégagement de la polychromie originale de la cathédrale qui, comme vous le savez, grâce aux investigations qui avaient été faites il y a maintenant fort longtemps par mon regretté confrère Guinicot, ont prouvé qu'elle possédait à peu près à 80% son décor original masqué sous la poussière, l'empoussièrement de séculaire. Bon, le haut cœur, vous le savez, est terminé. Il y a encore un débat sur la polychromie et le sens de la polychromie, des clés de voûte qui occupent nos historiens de la couleur, en particulier Michel Pastoureau. Mais actuellement, nous poursuivons les travaux sur la façade occidentale, le revers de la façade occidentale. Et sur le tour du cœur. Alors, le revers de la façade occidentale aurait dû être fini avant les grandes vacances. Malheureusement, nous avons eu des retards d'organisation des entreprises. Et heureusement, nous avons eu des découvertes extraordinaires. Et nous avons commencé au mois de juin à installer les échafaudages pour terminer le tour du cœur, c'est-à-dire tout le déambulatoire, en ce qui concerne évidemment les voûtes, la polychromie, sans toucher cette année au tour du cœur lui-même de Johan de Beauce, qui lui sera restauré ultérieurement, qui fera en fait l'objet d'un simple dépoussiérage.
Alors, rappelons aux auditeurs de Chartres et autour de Chartres que nous avons actuellement un énorme échafaudage à l'extérieur de la cathédrale, sur la façade principale occidentale.
Voilà, oui.
L'espace entre les deux tours a été nettoyé grâce à votre géniale idée de prendre en tenaille la cathédrale qui était restaurée au côté oriental, où on a découvert à 80%, comme vous dites, la peinture d'origine. Entre les deux tours, à l'intérieur de la cathédrale, on a découvert des peintures.
Voilà. Alors, l'idée n'était pas une idée géniale, ça a été un coup de chance. C'est que le résultat des appels d'offres en 2009 pour la restauration du Haut-Cœur a libéré de l'argent et que c'est mon administration qui a accepté immédiatement ma proposition de reporter cet argent pour attaquer la cathédrale à l'autre extrémité. Voilà, c'était une affaire de gros sous, mais qui débouche, si vous voulez, effectivement, sur des découvertes étonnantes. Parce que quand je préparais le projet de restauration, d'en bas aux jumelles, je voyais bien au sommet, là-haut, dans les fosses roses de maçonnerie qui ont été appliquées, si vous voulez, contre les parois intérieures du clocher vieux comme du clocher neuf, je voyais bien dans les roses un tracé régulateur gravé. C'était assez lisible, mais je ne voyais rien d'autre. Donc je me suis dit, tiens, ils ont voulu imiter un petit peu l'organisation de l'appareillage des roses dans lesquelles il y a les vrais vitraux tout au long de la nef et du chœur. Et puis quand l'échafaudage a été monté, dès le mois de novembre 2010, la première fois que nous sommes montés, on a vu des traces de couleurs qui apparaissaient sous des badigeons beaucoup plus récents. Et là, on s'est dit, tiens, il se passe quelque chose là-dessous, et on a commencé à faire de tout petits sondages par l'entreprise, et on s'est aperçu qu'il y avait de la polychromie. Il y avait en particulier, du côté sud, un roi qui était assez lisible, le visage couronné était assez lisible, on devinait un sceptre, on a d'abord cru que c'était un cavalier, puis on s'est aperçu, à force d'observer, de s'arracher les yeux sur les spectres qu'on voyait à travers le badigeon moderne, on s'est aperçu qu'en fait c'était un roi assis sur un trône, selon la position classique qu'on rencontre dans bien des lieux, dans bien des vitraux de la cathédrale, ou les Christs souvent qui sont assis sur des vitraux. Et on s'est aperçu que c'était un roi musicien, et on a tout de suite pensé au roi David, parce qu'on a vu la trace d'une lyre. Ce qu'on avait d'abord pris pour les rênes d'un cheval était en fait le manche de la lyre. Donc c'était assez étonnant. Et on a fait intervenir un peintre restaurateur qui a fait une première analyse, une première investigation, et qui nous a dit oui, c'est bel et bien une peinture qui a fait quelques nettoyages. On a fait un dépoussiérage. Il a fait un dépoussiérage complet. Et une fois la poussière enlevée, à travers le badigeon qui cachait ses peintures et qui était tout à fait diaphane, on a beaucoup mieux lu le personnage. On a donc lu sur les deux roses, les deux fausses roses qui sont adossées, si vous voulez, à la paroi nord du clocher vieux, on a vu deux faux vitraux, et on s'est aperçu que dans les lobes des vitraux, c'est-à-dire les ronds qui cernent, si vous voulez, le grand lobe central, le grand oculus central, on s'est aperçu qu'avaient été peints les motifs de rinceaux feuillagés qui sont ceux des vitraux de la rose elle-même du XIIIe siècle. Donc ils sont peints, alors que sur les vitraux, évidemment, c'est du vitrail. C'était absolument une découverte extraordinaire. Et on a décidé de mettre en place tout de suite un projet de restauration.
Ça ne prouve qu'en réalité que la rose était en place quand on a peint le mur.
Oui, oui, ça c'est évident, ou que ça a été fait en même temps, ou que c'est un même programme peint. Ça a pu parfaitement être réalisé en même temps, puisque les cartons destinés au maître verrier pouvaient manifestement servir aussi, pouvaient être faits par le peintre même qui avait fait les cartons pour les maîtres verriers, et qui sur des fausses roses qui ne pouvaient évidemment pas être translucides puisqu'elles étaient adossées à un mur opaque, lui permettaient de réaliser ces cartons. Et on peut même se demander, on s'est même demandé à un moment donné si ces roses n'avaient pas été peintes avant même pour servir de modèle aux maîtres verriers, pour qu'ils aient une vision d'ensemble, comme si les maîtres verriers de Chartres avaient eu besoin de ça. Mais bon, on peut phosphorer dans tous les sens, hein. On n'y était pas. Mais de toute façon, oui, les motifs sont les mêmes, donc a priori, on part du principe que c'est contemporain. Le problème, c'est pourquoi est-ce que c'était masqué sous un badigeon ? C'est ça qui est intéressant, qui n'est toujours pas résolu. Est-ce que ces roses sont... Alors, parlons aussi du côté nord. Adossé à la paroi sud du clocher vieux, du clocher neuf, pardon, donc du clocher nord, on a aussi deux roses pareilles, et là on voyait beaucoup moins de choses. On voyait très très peu, on ne voyait que des petits éclats, et ce qui s'est révélé après le premier nettoyage, c'est que les roses nord, sous le clocher neuf, étaient largement délavés et que les motifs avaient pratiquement disparu, alors qu'ils sont totalement conservés.
Ça peut s'expliquer par le fait qu'au début du XVIe siècle, le clocher nord avait été encore couvert de bois et de plomb. Il avait brûlé.
Voilà.
C'était cette occasion-là qu'on avait reconstruite en pierre dure.
Voilà.
Donc là, sans doute, c'est...
Mais il y a eu la différence, bon, pour simplifier, la différence, si vous voulez, d'état de conservation entre les peintures des deux côtés s'explique effectivement en partie par les avatars d'élévation du clocher neuf, puisque en fait le clocher neuf en 1150 était déjà resté inachevé. Il a déjà été surélevé un petit peu à la fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle. Il est de nouveau resté en attente. Il a reçu des flèches en bois deux fois, qui, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas, ont brûlé deux fois, une sûrement. Et enfin, Jean de Beauce est intervenu au début du XVIe siècle pour faire l'admirable flèche que nous connaissons. Donc ce clocher a subi des transformations permanentes, ce qui veut dire qu'avec les incendies et puis les éternels problèmes d'entretien des chéneaux, au nord, ça a été beaucoup plus délavé et la peinture a pratiquement disparu. Il y a eu aussi d'autres problèmes, c'est que on le voit sur les voûtes, alors que les voûtes du haut chœur étaient absolument intactes au point de vue structure, les voûtes des deux travées qui sont de part et d'autre, qui sont entre les deux clochers, les retombées des voûtes du côté nord, si vous voulez, par rapport à l'axe de la cathédrale, étaient très fissurées, et ça s'explique justement par les diverses étapes de construction de ce clocher, qui s'est tassé au fur et à mesure de l'alourdissement, si vous voulez, par les maçonneries qu'on superposait les unes aux autres, et en se tassant, en prenant sa place, comme on dit, il a un petit peu entraîné les maçonneries, et ce qu'on ne voyait pas sous la crasse nous a joué des tours assez pénibles.
Bonum est con
après cette petite intervention musicale, Musica Cathedralis, Chartres, musique du XIIIe siècle de l'ensemble Morache et l'ensemble Fulbert, nous sommes avec, toujours avec Patrice Calvel, qui nous vient de parler des peintures découvertes entre les deux tours de la façade occidentale de la cathédrale de Chartres. Et je lui laisse tout de suite la parole parce qu'il a tellement de choses
voilà,
à nous dire.
Alors ces peintures finalement qui ont été dégagées et parfaitement consolidées et réintégrées pour certaines lacunes aux deux roses peintes adossées au clocher sud ont été restaurées de juin à juillet, fin juillet c'était terminé, et de l'autre côté elles ont aussi été dégagées totalement et restaurées, du moins pour les parties visibles, mais on n'aura pas une équivalence de vision d'en bas dans la relative pénombre ou même en plein soleil. On verra très bien celles du sud parce qu'elles sont quand même très colorées, alors que de l'autre côté on verra des lacunes, mais nous nous interdisons de reconstituer au nord des choses dont nous n'avons pas les témoins. Au demeurant, on s'interroge toujours sur la date de ces peintures, on considère évidemment qu'elles sont de l'époque de la construction. Certains historiens émettent des doutes. La principale interrogation qu'on a pour l'instant, c'est à quelle occasion ont-elles été masquées ? Parce que dans les lancettes, dans les fausses lancettes, c'est-à-dire les grandes baies verticales postiches qui sont en dessous, on a une préparation, on a une préparation à fond rouge qui a été réalisée, mais qui a été laissée inachevée et même incomplète. Donc on se demande si l'abandon de ces peintures n'est pas un repenti en cours de route, pour des raisons que nous ne maîtrisons, que nous ne soupçonnons pas, qui peuvent être d'ordre économique, mais c'est peu probable à l'échelle d'un monument de cette taille, c'est pas les quelques centaines d'écus ou de livres tournois que coûtaient ces peintures qui pouvaient arrêter les commanditaires de la cathédrale. Donc il y a eu d'autres raisons, et on s'est demandé aussi si elles n'avaient pas été masquées beaucoup plus tard, parce que justement elles étaient dans un état de dégradation dissymétrique, puisqu'il y en avait en bon état, d'autres en très mauvais état au nord, et si elles n'ont pas été masquées, sans doute au XVIIe ou au XVIIIe siècle, à une époque où on avait plutôt tendance à cacher tous ces décors, et c'est comme ça qu'on les a complètement perdu de vue, parce que quand la Suisse a fait ses relevés de la cathédrale, qui sont d'ailleurs dans ses travaux, le relevé est absolument faux, il n'a rien vu. Donc elle n'était pas repérée au XIXe siècle, quand il y a eu les plus grands travaux du temps de la Suisse jusqu'au début du XXe siècle. En même temps que nous restaurons l'intérieur, il faut savoir que nous restaurons aussi la façade elle-même, puisque à l'occasion de la restauration des grands vitraux romans qui sont en cours d'achèvement, nous avons aussi nettoyé. Enfin, j'ai demandé à mon administration, j'ai dit à mon administration qu'il fallait absolument qu'on nettoie les maçonneries, qu'on enlève les croûtes noires, qu'il fallait que les vitraux soient quand même dans de bonnes conditions, qu'on n'ait pas à y revenir avant longtemps. Donc, on a monté cet échafaudage important sur la façade occidentale pour nettoyer toute la partie centrale entre les clochers, en partant de ce qu'on avait fait, de ce que j'avais fait il y a 3 ans pour remettre en état la galerie des rois. À cette occasion, en nettoyant, en enlevant les croûtes noires, et on les a nettoyées par projection, non pas avec de la poudre de noyau de pêche comme on le fait dans certains endroits, mais là on l'a fait grâce à la dureté de la pierre de Berchère. On l'a fait avec des produits plus classiques qui sont des microfines, des microfines de poudre d'alumine. Qu'on projette aussi à l'aide d'une buse, exactement comme on fait pour tout autre monument. Et là, on a retrouvé aussi, alors la grande découverte, extrêmement ténue, extrêmement cachée, invisible de toute façon, j'ai la preuve que la rose occidentale était peinte. J'ai retrouvé, avec l'équipe, nous avons retrouvé des traces de rouge, des traces d'ocre, et sur une colonne, au revers d'une colonne, dans le creux à l'abri de la pluie, des traces assez importantes de vert. Donc là aussi, il faut le savoir, cette rose-là était peinte, toutes les roses de la cathédrale de Chartres étaient peintes, de même que vraisemblablement une grande partie de toute l'élévation de la cathédrale était peinte, puisque, et ça vous pourrez en avoir des éléments dans le livre que nous publierons à partir de 2012 avec l'Université de Lille, et sous la direction de Darnaud Timbert, nous faisons un ouvrage collectif où nous expliquerons toutes les découvertes que j'ai pu faire depuis bientôt 15 ans que je m'occupe de la cathédrale, sur les métaux, la peinture et tout. Nous avons la preuve irréfutable que la cathédrale était peinte à l'extérieur exactement comme à l'intérieur, c'est-à-dire des badigeons ocre jaune et de la coupe de pierre blanche, qui n'a rien à voir avec l'appareil de pierre constructif. Voilà, donc ça c'est un point, c'est une des découvertes aussi de cette année, donc double découverte de peinture, à l'intérieur des roses postiches peintes, à l'extérieur la preuve que la rose était peinte.
C'est en effet une extraordinaire découverte, parce qu'on peut comprendre que l'on tapisse ou que l'on peigne une maison à l'intérieur, mais à l'extérieur. Mais à vrai dire, les grands immeubles aujourd'hui, on les recouvre également. Donc mais pourquoi au Moyen-Âge, on n'aurait pas eu le souci de faire beau également à l'extérieur?
Contrairement à ce qu'on imagine, nous avons pris avec le mouvement moderne en architecture depuis le 19e siècle l'idée que la belle architecture, c'est l'architecture dont on voit les matériaux. Ce sont les grandes antiennes d'Adolphe Loos, de Le Corbusier et tout ça. En réalité, il n'en est rien. Les anciens ne laissaient jamais de matériaux apparents. Quand une maison en pan de bois était sculptée, elle était peinte. Voir la maison du saumon. Et j'ai trouvé plus de 4 couches de polychromie sur la maison du saumon. Le musée, notre ancien évêché, on a des traces de peinture sur les corniches. J'ai trouvé, à l'époque où je refaisais les toits, plus de 5 couches de peinture, rien que sur les corniches de l'évêché, qui est notre musée de Chartres actuellement. Tout était peint. Les anciens peignaient tout pour des raisons d'abord fonctionnelles, techniques. La peinture protège. On ne laisse pas du bois naturel, on le peint. On ne laisse pas de la pierre naturelle, on la badigeonne. Et c'est une protection technique, mais c'est aussi une façon d'enchanter la vie. Et les gens du Moyen-Âge n'étaient pas des gens tristes, c'était des gens gais, leur musique le prouve, leur art le prouve. Et nous ne percevons plus assez cette dimension de la peinture dans l'architecture médiévale.
Nous sommes à Radio Grand Ciel avec Patrice Calvel, architecte en chef des monuments historiques, qui s'occupe de la cathédrale depuis 15 ans, avez-vous dit ?
À peu près
15 ans. Grâce à vous, nous allons découvrir une vraie cathédrale gothique qui a retrouvé son cœur, sa polychromie du XIIIe. Entre les deux tours, on a découvert la même clarté de peinture. Oui. À l'extérieur, des traces de peinture également, mais coloré. Le chœur est également en restauration, le déambulatoire. Ah, vous voulez peut-être nous parler justement.
Il faut que je vous parle donc de l'autre opération qui se termine à l'autre extrémité de la cathédrale, c'est dans le cœur dans le grand chœur, puisque en 2009 on a restauré les parties hautes et les vitraux. Cette année, on a restauré le chœur de Victor Louis à partir d'une étude qui a été faite il y a assez longtemps et qui avait déterminé évidemment le nettoyage, fondamentalement un nettoyage du décor de Victor Louis qui était totalement affaibli et assombri par l'encrassement, même que les parties hautes. Donc le nettoyage s'est fait assez rapidement, et là aussi, il y a eu une découverte extrêmement importante, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que la polychromie d'origine n'était pas celle qu'on voyait après nettoyage, en particulier les grands écoinçons qui sont au-dessus des grandes arcades autour du chœur. Ces grands écoinçons nous paraissaient gris. Et on s'est dit, avec notre sensibilité d'homme moderne, bon, il a fait des tons, il a joué sur des tons de gris. Et puis, quand on a déposé les ornements en bois doré qui sont incrustés sur ces, qui sont fixés sur ces parements, quand on les a descendus pour les restaurer parce qu'ils étaient très abîmés, il y en a certains qui étaient tellement mangés par la petite vrillette qu'il faut les refaire intégralement. Et on les refait non pas en moulage résine, mais on les refait en véritable sculpture. On s'est aperçu que dessous, il y avait le décor des écoinçons de Victor Louis qui était en fait un faux marbre vert antique. D'une puissance de couleur absolument étonnante.
Je vous rappelle que Gilbert, dans son ouvrage du début du 19e, il en parle. Il parle d'un marbre turquoin.
D'un marbre turquin.
Turquin, oui.
Oui. Eh bien, effectivement, on s'est aperçu qu'il avait bel et bien existé. Il y a preuve qu'il avait bien existé, alors que les sondages qu'on avait faits préalablement aux travaux ne l'avaient absolument pas révélé.
Donc un cœur complètement polychrome au XVIIIe siècle.
Un cœur complètement polychrome au XVIIIe siècle, c'est-à-dire les colonnes fasciculées en brèche, type brèche d'Alep, avec des tons de marron, étaient assez bien conservées, puisqu'on le voyait toujours sous la crasse. Les parties de corniche, toutes les parties plates, les entablements, tout ça était dans des tons de gris, jusqu'au triforium. Par contre, on avait vu ces grands écoinçons, aussi que dans un ton de gris. Et finalement, ils étaient bel et bien verts. C'est du vert antique, plus que du vert turquin. C'est du vert antique, ce qui est beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Et on s'est demandé pourquoi il s'était à ce point affaibli. Et en fait, c'est lié en grande partie à l'humidité. Et à l'humidité, à l'atmosphère humide de la cathédrale depuis des générations et des générations. Et il y a eu, si vous voulez, une migration du gypse constitutif du faux marbre vers la surface, la migration des sels, qui avait finalement fait un dépôt blanchâtre qu'on est en train d'achever de déposer.
Donc, si vous voulez, voilà, on
a ça, mais là c'est pas le carrelage, c'est lié, si vous voulez, à l'ambiance humide générale de la cathédrale, et aussi un petit peu. On a d'abord cru que c'était une variation liée uniquement à l'action des ultraviolets, qui ont une grosse influence sur le verre, qui le perturbe, la fadisse très vite. Et en fait, là, non. Le fait que c'est une pellicule qui s'est constituée, une pellicule de gypsoïde qui s'est constituée en surface du décor, uniquement sur les écoinçons d'ailleurs, fait que, parce qu'ils sont en surplomb, si vous voulez, sur le plat du mur environnant. Et donc, il y a une quantité de plâtre, puis ces faux marbres sont faits en grande partie avec du plâtre et de la chaux. Énormément de plâtre dans le décor de Victor Louis ont complètement perturbé, si vous voulez, le décor, et on ne pouvait pas s'en rendre compte par les simples sondages d'origine au moment de l'étude préalable. Donc là, on est en train d'achever, ça représentait évidemment un chantier qui devait être fini au mois de juillet, est en train de s'achever seulement maintenant, enfin va s'achever pour la fin de cette année, et vous allez retrouver le véritable décor de Victor Louis avec des couleurs beaucoup plus violentes que ne l'accepte habituellement notre sensibilité, mais c'est la vérité archéologique et historique. Donc il faut s'y tenir. Il faut s'y tenir, et mon administration, le ministère de la Culture, s'est donné les moyens de restituer ce décor, parce que c'est quand même un enjeu très important dans un monument aussi prestigieux et célèbre que la cathédrale de Chartres.
Donc on s'arrêtera juste avant la Révolution française, lorsque le chœur avait été refait par Victor Louis.
Voilà, le chœur a été refait à partir de 1769. Les stalles sont les dernières stalles posées en France alors que la Révolution avait bien commencé, puisqu'elles ont été posées en 1790. Donc c'est vraiment un décor de l'extrême fin du XVIIIe siècle, dans le style transition Louis XV-Louis XVI, qui est quelque chose de tout à fait exceptionnel.
Donc Chartres ne devait pas encore souffrir des mouvements révolutionnaires en 90.
Non, pas encore. On sait que par miracle, les décors de la cathédrale ont été sauvés d'ailleurs, et on sait par qui. Mais donc le décor de Victor Louis se termine, et nous sommes en cours de nettoyage du déambulatoire, puisque à partir du mois de juin, nous avons posé les échafaudages dans le déambulatoire sud, et vous avez vu qu'on les pose maintenant dans le déambulatoire nord.
Oui, on a déjà vu qu'ils sont en train de nettoyer.
Et on a fait des essais de nettoyage qui ont prouvé que le décor était évidemment, mais ça, Guinico l'avait déjà validé, vérifié, nous savons que le décor est homogène sur la totalité de la cathédrale, et on retrouve, avec des nuances dues évidemment aux approvisionnements de sable qui étaient plus ou moins réguliers et de carrières diverses, donc on a forcément des nuances, mais on sait que la cathédrale avait ce décor complet partout.
C'est absolument extraordinaire de découvrir sous ces couches de crasse une peinture aussi vieille.
Oui, mais mieux, sous la crasse, mais mieux encore, tenez, je vous en touche un mot, parce que ça ne concerne pas Chartres, ça concerne la ville de Dreux, mais nous avons découvert il y a 2 ans une façade romane absolument exceptionnelle, sculptée à côté de l'église Saint-Pierre, et nous l'avons décroutée complètement, et nous sommes en train, nous avons fini de la consolider pratiquement, et cette façade romane, je vous parlais de la peinture qui enchantait la vie des hommes du Moyen-Âge, et bien cette façade était entièrement peinte, c'est-à-dire que la pierre sculptée, très belle pierre, mais une pierre tendre, facile à sculpter, avait été recouverte d'un très épais badigeon, et ce badigeon était couvert d'un filet de peinture noire qui reprenait, enfin que nous voyons noir, parce qu'il peut avoir viré, mais qui était peut-être un bleu ou un certain rouge qui vire au noir, était entièrement recouvert d'une coupe de pierre qui reprenait fidèlement l'appareil de pierre de la construction. Donc c'est un exemple type de la façon dont les hommes du Moyen-Âge peignaient tout, ce que je vous disais tout à l'heure.
Donc ils peignaient les pierres d'une autre couleur et ils ajoutaient les faux joints.
Ils ajoutaient les faux joints, mais en fait elle est peinte pratiquement de la même couleur, enfin sauf que c'est un peu plus ocre, sauf que la couleur est un tout petit peu plus ocre que le ton de la pierre qui est très blanche, même un peu triste la pierre, hein, c'est une pierre de Vernon qui est un peu jaunâtre, mais blanche quand elle prend l'atmosphère, quand elle est sortie de carrière, elle devient très blanche. Donc en la peignant, un, ils la protègent, ils évitent la destruction du calcin naturel de la pierre et ils la décorent.
Alors nous pourrions vous écouter pendant longtemps encore. Malheureusement, l'émission touche à sa fin. Rappelons que vous faites partie du groupe de recherche sur la cathédrale de Chartres. Oui. Vous allez publier, vous l'avez annoncé, un livre avec Arnaud Timbert qui dirige ce groupe de recherche avec vous.
Oui, qui est un ouvrage collectif. Oui.
Et vous allez donc publier toutes les découvertes faites dans la cathédrale de Chartres, les matériaux de construction, la polychromie. D'ici
les
la
métaux,
Paris.
Les métaux.
Les métaux également, très important. L'importance du plomb et du fer. Dans voilà. La construction. Ces découvertes et restaurations, vous pouvez déjà, chers auditeurs, les découvrir lors des journées d'études organisées par le Centre international du vitrail en octobre, 22 et 23 octobre cette année. Session renouvelée, mais avec d'autres sujets, le 17 et 18 mars en 2012. Et Patrice Calvel interviendra également pour nous parler de l'historique des restaurations de la cathédrale de Chartres. Les conférences auront lieu dans la maison du saumon. Nous avons eu le plaisir de découvrir, grâce à vous, déjà beaucoup de choses sur la cathédrale. Chers auditeurs, ne désespérez pas, la cathédrale va retrouver sa beauté d'antan. Peut-être vous pouvez déjà annoncer notre prochaine émission où vous nous allez parler d'une autre renaissance.
Je vous proposerai de parler de la renaissance du trésor de la cathédrale qui est fermé depuis l'an 2000.
Donc, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. À très bientôt et bonnes vacances si vous en avez.